voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
François Weyergans a été élu le 26 mars 2009 à l'Académie française au fauteuil 32, fauteuil occupé par Maurice Reims précédemment et laissé vacant par le décès d'Alain Robbe-Grillet. François Weyergans est né le 2 août 1941 à Etterbeek, c'est dans la région de Bruxelles-Capitale, en Belgique évidemment, d'un père, Frans Weyergans, qui était belge, écrivain lui aussi, et d'une mère française de la région d'Avignon. Il s'est toujours passionné pour le cinéma, a rédigé de nombreux articles pour les cahiers du cinéma, avant de réaliser en 1961-62 un premier documentaire sur Maurice Béjart, et un film qui a été suivi de plusieurs autres. Alors pour vous présenter, pour vous donner le goût du talent de François Weyergans, Canal Academy a choisi de vous lire les premières phrases de quelques-uns de ses romans. Bien sûr, c'est un parti pris qui ne donne qu'une vue partielle de son œuvre, mais cette émission n'a d'autre objectif que de vous inviter à une brève plongée dans une œuvre abondante. La chronologie voudrait que l'on commence par citer Le Pitre, son premier roman, paru en 1973, qui relate de manière romanesque sa psychanalyse. Mais nous commencerons par évoquer un autre roman, Salomé. Salomé qui fut écrit en 1968 et 1969, alors que l'auteur avait 27 ans. Et son manuscrit est resté dans un tiroir jusqu'en 2005. L'auteur y décrit en direct les plaisirs du jeu, les obsessions tenaces, les fantasmes, les peurs, la libido effrénée. L'éditeur, en l'occurrence les éditions Léo Cher, affirme que dans ce premier ouvrage, qu'il qualifie de texte fondateur, se trouvent en germe tous les éléments de l'œuvre de François Weyergans, dont le ton est si singulier, mêlant la rage et l'allégresse, l'érotisme et le désarroi. Dès la première page, l'auteur commence par une sorte d'autoportrait.
Par où commencer, puisque je ne sais pas où je finirai, ni comment. N'importe. Un de ces jours, il faudra finir. Je me sens comme un vieux colporteur d'images qui a oublié le début de sa complainte et n'en a jamais sur la fin. Les théologiens affirment que Dieu seul est à la fois commencement et fin. Ils s'en sortent mieux que moi. J'aurais dû être théologien. Je ne fus qu'enfant de cœur. Dieu avait, paraît-il, pris dès ma conception quelques dispositions imprévisibles à mon égard, profitant d'un moment d'inattention, sans doute quand les chromosomes de mes parents échangeaient leur matériel génétique pour me donner une âme, ce qui, pour les théologiens, est le commencement d'un avenir. J'attendis la puberté pour estimer que mon avenir commençait.
La suite donnant de savoureux détails sur sa sexualité enfantine, on renverra l'auditeur à la lecture du livre. En 1986, il publie « La vie d'un bébé » chez Gallimard, dans lequel François Weyergans relate à sa manière le commencement de la vie dans l'univers. Écoutez les premières lignes de cette narration.
« Tout à coup, il y eut une lumière folle. Elle rayonna dans l'espace. » Aucun cerveau n'aurait pu établir que l'espace est un milieu illimité. Il n'y avait pas de cerveau. La lumière était là, inconcevable, sans but et sans motif. Elle prit possession de l'espace. Plus rien d'autre n'exista, ce qui est gênant à dire à cause des aveugles auxquels on signalera qu'il n'avait pas été prévu au programme. Il n'y avait pas de programme. L'existence des globes oculaires ne fut à cette époque attestée nulle part, si on peut qualifier d'époque un état de choses inconciliable avec l'espoir et le souvenir. La lumière n'était faite que de grains, de particules. Ces grains tenaient l'espace sous leur domination, ce qui ne leur parut pas suffisant. Ils s'agitèrent. On était à la veille d'un événement qui influencerait des centaines de millions de siècles. Mais l'usage du mot « siècle » est ici une faute contre la chronologie.
Puis l'auteur en vient à la description du début de la vie d'un fœtus qui commence à bouger dans le ventre de sa mère. En 1989, l'affirmation est lancée dans le titre de son livre « Je suis écrivain. C'est toujours chez Gallimard. Le livre, qualifié de roman, se découpe en 17 chapitres. Le premier s'intitule « Se mastiquer le mastodonte ». Il évoque une anecdote de ses jeunes années. En voici les premières lignes.
Quand j'étais en cinquième au collège Saint-Paul, j'ai inventé une expression à partir de deux mots repérés dans le dictionnaire à la fameuse page où nous avons tous cherché en vain le verbe pronominal « se masturber ». Cette expression « se mastiquer le mastodonte » connut un beau succès quand je la fis circuler pendant un cours d'histoire. Un maladroit fit passer mon papier jusqu'au premier rang. « Monsieur Delorge, avait dit le professeur d'histoire, puis-je vous demander communication du précieux parchemin qui semble requérir toute votre attention ?» Ce fils à papa de Delorge, marquis Delorge, ou prince Delorge, je ne sais plus. Il avait de la chance. On étudiait Clovis et les autres rois de France. Quand on étudia la Révolution et la Terreur, il y avait longtemps que ses parents avaient été obligés de le mettre dans une boîte à bachot. Quel œuf !
Ce premier chapitre est suivi de l'ami des muses. On le surnommait le singe, c'est de toi qu'il s'agit, etc. Et le dernier, Kiki Miomio. Je vous laisse le soin de découvrir cette plaisante évocation du Japon. En 1990, cette fois aux éditions Grasset, paraît « Rire et pleurer ». C'est le huitième roman de François Weyergans, qui a déjà fait paraître entre autres le pitre et son célèbre « Macaire le copte ». Dans « Rire et pleurer », il s'agit d'un homme qui n'a plus rien, ni femme, ni appartement, et qui ne sait plus à quoi ou à qui se raccrocher.
En sortant de la boucherie, Michel Zetnik avait été suivi par un chien aux fortes mâchoires, qui appartenait visiblement à la famille des molosses. Ce chien avait l'air plein d'intelligence et d'amabilité, mais ses petits yeux enfoncés d'une belle couleur ambre fixaient un peu trop attentivement le papier que Michel serrait dans sa main et dans lequel il savait pertinemment l'un et l'autre que se trouvait une tranche de filet de bœuf. Le chien avait émis une série de plaintes qui auraient rendu jaloux un chanteur de flamenco. Michel lui avait dit « Écoute, mon vieux, j'ai besoin de cette viande pour mon cerveau qui est fatigué. »
Et parce que le vieux chien a des poils blancs dans les sourcils, le héros le surnomme Derzu Urzala. Le roman se termine en Grèce et les amoureux de ce pays seront heureux de retrouver l'ambiance ouzo et mer bleue, sans savoir en effet s'il faut, sur le sort de cet homme abandonné, rire ou pleurer. En 1992, toujours chez Grasset, paraît « La démence du boxeur ». Évidemment, l'histoire d'un homme qui a reçu beaucoup de coups et pas seulement ceux des gants de boxe.
Melchior Marmont, président de la société anonyme Melchior Film, production et distribution, venait d'avoir 82 ans lorsqu'il réussit enfin à se rendre propriétaire de la maison où il avait été un petit garçon jouant à cache-cache et au conducteur de locomotive, où il avait vécu les plus beaux moments de son adolescence, où il avait écrit des poèmes à la lueur d'une bougie, et il avait toujours dans un vieux carnet Ode à l'orage et sa danse macabre. Et connu ses premiers fantasmes d'amour avec de jolies femmes, tout ce que feu son frère aîné, médecin des hôpitaux, aurait appelé le passage gratifiant du stade érotico-masturbatoire au stade érotico-copulatoire. C'est dans cette maison que Melchior, à l'âge de 10 ou 11 ans, avait pris l'habitude de s'endormir en posant une main sur sa poitrine, voulant s'assurer que son cœur ne s'arrêterait pas de battre pendant la nuit.
Et après avoir tourné son premier film à 82 ans, La charrette de la mort emportera le vieux Melchior. Signalons que ce livre a obtenu le prix Renaudot en 1992. En 1997, François Weyergans donne à son nouveau roman deux prénoms masculins, Franz et François, c'est chez Grasset encore, c'est l'histoire de la relation, difficile évidemment, d'un père, Franz de son prénom, et d'un fils qui se veut tout le contraire de son père et qui, 20 ans après la mort de celui-ci, réglera peut-être et enfin ses comptes. On devine sans peine qu'il s'agit au moins en partie d'une rédaction biographique.
Tous ses amis savaient que François Weyergraff avait commencé d'écrire 5 ans plus tôt un livre sur son père. Tous ses amis savaient aussi que depuis 5 ans, il n'arrivait pas à finir ce livre. Dans l'ensemble, ces 5 années lui apparaissaient comme les pires qu'il avait vécues. Il se demandait si, le jour de sa mort, une femme lui ferait la gentillesse posthume de déclarer « Avec lui, tout en valait la peine, même le pire. Ce serait parfait comme épitaphe. » Après les années pénibles qu'il venait de lui infliger, Delphine aurait-elle l'idée de prononcer une telle phrase ? Delphine, sa compagne, la mère de leurs 2 filles, celle qu'il appelait parfois, dans des accès de romantisme, « ma petite Delphine chérie », un prénom si agréable à prononcer, avait préféré lui dire « tu étais plus marrant dans le temps ». Une phrase qui n'était pas mal non plus, comme épitaphe.
Enfin, en 2005, le prix Goncourt permet à François Weyergans des tirages importants pour son roman « 3 jours chez ma mère ». Aux éditions Grasset, et sans doute le premier des titres que l'on cite lorsque l'on évoque son œuvre. En voici la première page où l'on retrouve d'ailleurs la Delphine dont il était question dans le roman précédent.
« Tu fais peur à tout le monde », m'a dit Delphine hier soir, en guise de point final à un dialogue qui risquait de s'envenimer. Ma conduite la pousse parfois à des déclarations de ce genre, de vraies sentences condamnatoires. Dans le passé, même récent, j'ai eu droit à pire de la part de celle que j'appelle ma petite Delphine, bien qu'elle mesure 1,78 m. Nous vivons ensemble depuis plus de 30 ans. Delphine est la femme que j'imagine à côté de moi, penchée sur mon lit si je dois mourir un jour à l'hôpital, plutôt que dans un accident d'avoir, et dans un accident d'avoir, sans doute serait-elle aussi à côté de moi.
Nous espérons que vous avez apprécié cette « initiation » entre guillemets à l'œuvre du romancier François Weyergans et nous vous invitons aussi à consulter la fiche qui lui est consacrée sur le site de l'Académie française. Les lectures de cette émission ont été assurées par le comédien Fernand Guillot. Merci à vous d'avoir choisi Canal Académie.